libérer la Solange, libérer la Solange, libérer la Solange.
Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter, dans tous les sons et dans tous les sens.
En direct du studio 611, une émission réalisée par Aline Pénito, assistée de Karen Dehé, avec à la technique aujourd'hui Mathias Alléon et Florent Layani.
Cette semaine, libérez la sono pour prendre la parole, place de la République et d'Occupy Wall Street à nu debout avec David Graeber.
Chacun peut venir prendre la parole, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qu'il faut garder.
C'est tout à fait possible qu'on soit en train de vivre une de ces époques de changement aujourd'hui, mais qu'on ne sait pas encore comment le décrypter.
Alors, un point d'actualité brûlant, il semblerait que la préfecture de police, décidément, entre la lumière, la bouffe, maintenant ils veulent couper le générateur. On veut plus qu'on parle, je crois.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Aujourd'hui, samedi 16 avril, nous sommes le 47 mars, soit 18 jours après le 31 qui sonna le glas de l'ère ancienne, celle où le peuple résigné, lassé des discours vides de politiciens à bout de souffle, a décidé de se remettre debout. Et malgré l'état d'urgence qui n'en finit plus de se prolonger, le mois de mars, lui, continue de s'allonger, au fil des nuits passées debout, à inventer un monde nouveau sur des places bondées. Démocratie directe revendique les nuits deboutistes, car la démocratie, ce n'est pas juste aller déposer un bulletin dans l'urne tous les 5 ans. C'est avant tout se réapproprier la parole. De cette volonté de parler et de se faire entendre est née Radio Debout, la radio de ceux qui ne se couchent pas. Car nul n'entre ici s'il n'est révolté. Et pendant que la majorité des médias ne parlent plus que des incidents, des débordements ou des dégradations qui émaillent parfois les soirées et passent à côté de ce qui est vraiment en train de se passer, Comme un bruit vous emmène aujourd'hui au cœur de la nuit, dans les recoins de la République, où l'on rencontre des policiers qui prônent la convergence des luttes, où l'on assiste à des scènes de fraternisation entre forces de l'ordre et jeunes gens. Et pendant que certains s'activent aux manettes de Radio Debout, d'autres décryptent le mouvement, comme l'anthropologue David Graeber, figure emblématique du mouvement Occupy Wall Street que Guy Vanctil a rencontré et qui fait le lien entre nous, place de la République, et toutes les places où s'invente la démocratie par le monde. Comme un bruit qui court d'Occupy Wall Street à Nuit Debout, cet après-midi on libère la sono, alors restez avec nous jusqu'à 17h.
Antoine Chao,
Charlotte Berry,
Guy Vanctil. Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
S'il vous plaît, venez chercher la sono.
C'est où ? On est lundi 41 mars et en fait, la gendarmerie empêche les occupants d'aller chercher du matériel. Donc ils empêchent les caddies de passer.
Bonjour monsieur, quel besoin légitime nourrit votre refus ?
Il n'y a pas de besoin monsieur, c'est les ordres.
Mais les ordres et donc...
C'est mon métier monsieur.
Il laisse rien passer là, c'est ça ?
Il y a quelqu'un du moment qui est en train de négocier, qui a un papier et tout. Vous restez derrière lui, mais hyper calmement. Il a les papiers, donc il va négocier. En revanche, avoir des gens derrière lui montreront la force du mouvement.
On reste là. Bah, faudra...
C'est ça, et surtout aucune provocation,
là,
rien.
Non,
parce que légalement, ça peut se régler, on l'a déjà fait.
Alors, il y a les thermos qui passent et les bouteilles qui passent une par une par-dessus les cordons des gendarmes, de gendarmerie.
Pour pas qu'on monte les barnums.
C'est quoi les barnums ?
Les tentes qui avaient jusqu'à là.
Oui.
Et donc là, du coup, ils rappelleront quand la sono arrive, mais pour le moment, elle est pareille.
Et là, la sono, elle est là-bas.
La sono, libérez la sono, libérez la sono, libérez la sono.
Cette semaine, on retourne sur la place de la République pour suivre de près le mouvement citoyen Nuit Debout qui a pris place. Et toute la semaine, ils ont dû batailler pour qu'elle puisse continuer cette Nuit Debout dans l'adversité de certaines mairies d'arrondissement et des forces de l'ordre plutôt tatillonnes quand il s'agit de laisser faire ce rassemblement pourtant dûment autorisé. Alors comment occuper, comment partager, comment dialoguer ensemble ? C'est à l'ordre du jour, tous les jours à 18h, quand il faut réinvestir la place de la République et les initiatives foisonnent pour inventer le monde de demain qui est en gestation dans ce vieux monde.
C'est un cri qui sort de nulle part, une aberration, une scie pour une évasion. C'est un tambour, un tam-tam, un boucan de tous les diables. C'est un ramdam, c'est un râle d'homme, un ras-le-bol, une bouteille du tissu et de l'alcool. C'est un frontal, un calvaire, la gueule du sauvageon qui veut pas se taire. C'est une espèce tenace, une promesse, mieux, une menace. C'est une femme noire qui s'assoit devant et désobéit. C'est cette plume qui rentre au pays, la boule au ventre de colère et le changement d'attitude qui s'opère. C'est un chant qui porte la résistance en lui. C'est la canaille, et bien j'en suis.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Il faut sauver les meubles, il faut rester debout. L'important c'est le nombre, l'union fait la force. Putain, on vous l'a jamais appris. L'important c'est juste une chose, c'est juste de pouvoir garder le son, garder la parole, garder cette chose, garder cet instrument pour pouvoir garder la parole et pouvoir communiquer et échanger. Il s'agit juste de ça. Ce mouvement il est là pour ça. On a créé un mouvement, on a créé un forum, on a créé une agora. On est là pour discuter, pour échanger. C'était pour ça. Chacun peut venir prendre la parole. C'est quelque chose de magique, c'est quelque chose qu'il faut garder.
Alors c'est quand même assez incroyable cette volonté de parler, de partager. Il est 21h30 et là l'AG, ça y est, redémarre avec une sono qui fonctionne, de l'essence dans le groupe électrogène, un deuxième groupe électrogène de secours qui est arrivé, une bâche tendue entre deux arbres de la place pour se protéger de la pluie, mais bon, le ciel est clément ce soir. Des milliers de personnes qui sont là, qui ont attendu donc depuis 18h, il est 21h30 maintenant, en ce 11 avril, ou 42 mars plutôt, pour pouvoir débattre, échanger sur cette assemblée générale de prise de parole, discuter, débattre, échanger, place de la République.
C'est ce qui concerne oui, d'argent aujourd'hui qui circule dans les commissions parce qu'on peut faire des dons à des commissions, ce qui est génial.
Oui, je suis Geoffrey Payer, je suis sociologue à l'Université de Louvain et à l'HESS et au Collège d'études mondiales.
Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui sur la place de la République?
Je pense qu'en fait, en France, il y a quand même beaucoup d'éléments qui étaient réunis pour qu'un mouvement du type des éléniers ait surgi, pour qu'il surgisse. Et donc, c'est vrai qu'avec cette désillusion politique face à la politique représentative, au gouvernement, au projet de loi, la solution pour beaucoup, c'est de voter pour le Front National en disant ils sont tous les mêmes. Et puis, évidemment, il y a un peuple français important pour lequel c'est impossible de voter pour le Front National, et au contraire, qui est tout à fait contre le Front National, et c'est ceux qui sont ici en disant qu'il y a peu d'alternatives du côté de la politique institutionnelle, mais que la démocratie ne s'arrête pas là. Et c'est vrai que quand tous les médias, depuis des mois déjà en France, ne parlent que de l'élection présidentielle qui se dessine dans un an, c'est un message très fort de dire, ben non, la démocratie n'est pas que autour de l'élection présidentielle, c'est aussi ce que font les citoyens, ce qu'ils font dans la rue, sur les places, dans la vie quotidienne, avec les AMAP, avec bien d'autres choses. Et dire que la démocratie ne peut pas se limiter à l'élection présidentielle, aux partis politiques, ça me paraît un message très fort. Et puis aussi ici, quand même, peut-être ce qui distingue un peu ce mouvement des alignés, d'Occupy et d'autres mouvements avant, c'est une place très importante des migrants, des étrangers, et dans un contexte où il y a l'état d'urgence, où la politique française est quand même bien plus fermée que celle de son voisin allemand, par exemple, face aux réfugiés. C'est quand même un nouveau souffle d'entendre des gens qui disent autre chose, qui disent que nous devons accueillir aussi des étrangers, des réfugiés. C'est impressionnant de voir tous ces gens réunis pour le dire.
Alors vous qui observez les mouvements sociaux et qui les étudiez, qu'est-ce qui peut s'articuler? On est à un an effectivement des présidentielles. Qu'est-ce que ça peut inventer ce mouvement ici?
La première chose qu'il faut dire, c'est que les mouvements sociaux ne se limitent pas à des précurseurs de résultats politiques électoraux. L'objectif d'un mouvement social, ce n'est pas de faire un nouveau parti, ce n'est pas de créer un nouveau parti, c'est en fait de vivre, d'expérimenter la démocratie, à petit niveau parfois de manière plus vaste, comme ici. Et donc, la politique électorale, ça ne peut pas être la seule aune à laquelle on évalue un mouvement social. Après, quand on voit les mouvements récents ou moins récents, eh bien, on voit des résultats très différents, très disparates, et toujours indirects. Donc, ce n'est pas le mouvement lui-même qui arrive à la politique électorale, c'est plutôt des acteurs qui après s'emparent du mouvement, s'emparent de la dynamique du mouvement et en font quelque chose. Et on a des cas très différents avec par exemple les alignés dont certains, pas tous, ont construit ce parti Podemos, mais il faut aussi savoir qu'en Espagne beaucoup d'élus ne sont pas dans Podemos et viennent du mouvement les alignés. On ne peut pas résumer comme on le fait trop souvent en France Podemos aux alignés ou les alignés à Podemos. Ce sont des dynamiques en partie différentes qui poursuivent bien sûr le mouvement des places mais aussi parfois qui l'inversent. Par exemple le mouvement sans leader sur les places est aujourd'hui clairement un parti Podemos dans lequel le leader est quand même très important. Et on voit dans d'autres mouvements, on voit un peu la même chose. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs qui en 2011-2012 étaient pas hostiles mais distants de la politique institutionnelle, quelques années plus tard, ont fait le pas. On fait quelques pas vers la politique institutionnelle. On le voit par exemple en Angleterre, où Occupy London, par exemple, était tout à fait opposé au parti, ne voulait pas de parti là-bas. Et quelques années plus tard, une partie des jeunes qui étaient autour de la cathédrale Saint-Paul à Londres ont été les grands supporters de Jeremy Corbyn, qui est en train de faire une expérience maintenant en Angleterre, on ne sait pas très bien jusqu'où ça va, mais une expérience qui au moins donne un peu plus de place à la participation citoyenne dans cette politique électorale très ardue quand même en Angleterre. On le voit aux États-Unis avec Bernie Sanders aujourd'hui aussi, où le mouvement Occupy n'est pas innocent, a créé un climat dans lequel tout ça a pu surgir. Et puis un autre cas aussi très intéressant quand on pense à l'impact politique, à mon avis c'est le mouvement de Gezi en Turquie. Et donc on voit aussi ici le pouvoir finalement de tous ces mouvements horizontaux où il y a des idées nouvelles qui repartent, où on dit que la démocratie ce n'est pas que ce qu'on lit dans les médias officiels, que la démocratie c'est aussi ce qui se fait dans les quartiers par les citoyens, qui sont très forts ces mouvements et ils transforment la démocratie aujourd'hui. Mais il y a aussi des questions qu'on a se poser quand on voit que peut-on faire face à la répression. Et donc la répression, la réponse ça ne peut pas être la violence, parce que cela évidemment les pouvoirs comme celui d'Erdogan sera toujours plus fort, mais il y a des questions, il y a pas des impasses, mais des étapes intermédiaires aujourd'hui de tous ces mouvements globaux. On voit bien comment ça passe d'un pays à l'autre, progressivement, petit à petit. C'est pas une accumulation telle qu'elle, mais on apprend d'un mouvement et de l'autre. On voit bien qu'il y a un apprentissage qui se fait.
Et n'oubliez pas qu'on rate toujours les entrées d'antenne, donc on peut balancer.
Écoutez, parler, comprendre. Radio debout.
Bah ça y est, on va s'attendre.
Allez, ça y est, c'est à l'antenne. Alors Manon, comment ça se passe?
Radio debout, c'est des gens qui ont envie de faire de la radio spontanément. Je le définirais comme ça.
Alors des gens qui savent faire, d'autres qui découvrent comme toi, c'est ça?
C'est ça. Y a des experts et des moins experts, mais du coup il y a un échange de savoir-faire. Et il n'y a plus de barrières, justement. Donc, c'est une vraie éducation, c'est comme une université populaire pratique.
L'éducation populaire à la radio, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Mais je suis sûre qu'il y a d'autres ateliers. Je suis sûre qu'on peut apprendre plein de choses sur cette place. Faire de la radio, peut-être faire de la télé, peut-être faire à manger, installer des bâches, pardon.
Et pourquoi t'es venue, toi, alors, à Radio Debout?
Moi, je suis venue parce que j'écoute tout le temps la radio, en permanence, des podcasts. Du coup, ça fait longtemps que j'avais cette envie, mais comme c'est pas du tout mon domaine, sans jamais savoir comment franchir le pas.
Et là, il y a 7-8 personnes autour de quelques tréteaux, une planche et une table de bistrot qui a été empruntée à un bistrot un peu plus loin, là.
C'est ça, c'est assez sommaire comme installation. Et alors, chaque fois, ça change un peu de disposition. Mais là, on est plutôt bien installé hein, par rapport aux premières nuits.
C'est vrai, il y a une belle bâche en plus qui prend presque pas l'eau. Et bon, en même temps, le matériel, il craint rien parce que c'est vraiment du matériel low-tech. Hein. Il n'y a pas plus récup.
Mais ça marche bien. Hein.
Ouais, ça marche.
Comme
très
quoi,
bien.
On n'a pas besoin d'un gros studio et de 20 000 consoles.
Alors ça réhabilite un peu l'esprit des radios libres, hein, des radios de lutte, des radios d'intervention, que t'as pas connu toi?
Bah non.
Moi j'ai connu.
Ouais.
Radio Verte Fessenheim, par exemple. En tant que cheminot déjà à l'époque, etc., j'étais intervenu sur Radio Verte Fessenheim, donc c'était une des premières, peut-être bien même la première radio libre, quoi. Fin des années 70. Radio Manivelle aussi. Donc Radio Manivelle, ce qui a donné Radio Primitive maintenant, qui existe toujours sur la région de Reims, quoi. Et eux, à l'époque, ils avaient été inculpés, contrôle judiciaire, etc. Quoi. C'était une vraie bataille. Hein. C'était effectivement... là, ça ressemble. Il y a un petit côté qui ressemble. Mais bon, là, c'est pas le réseau hertzien. Donc, il fallait aussi trouver un émetteur. Bah, les copains de Radio Manivelle, eux, c'était carrément des fois dans les vignobles. Là, ils allaient mettre l'émetteur dans les vignobles. Et ils émettaient comme ça, quoi.
D'accord. Voilà. Et c'était quoi, alors, les types de contenus?
C'était sur les luttes qui se passaient... Comme il y avait effectivement la pression policière, etc., c'était des courtes émissions. Hein. Par contre, il y a eu après, quand il y a eu le début des radios libres, on va dire, autorisées, bah, il y a eu des radios vraiment de lutte où ils faisaient participer les gens qui étaient dans les grèves, qui étaient dans les...
Radio Lorraine Cœur d'Acier, par exemple.
Radio Lorraine Cœur d'Acier, alors ça, je l'ai connu, moi, un petit peu par des copains, mais pas vraiment. La radio que j'ai connue, moi, c'était dans la pointe des Ardennes. Et c'était Radio Chauffe qui peut, quelque chose comme ça, je crois, un truc comme ça. Donc c'était par rapport à la lutte anti-nucléaire contre la centrale de Chaux. Et également la lutte des sidérurgistes qui se battaient contre la fermeture de la chière dans la pointe des Ardennes. Oh non, c'était Radio La Pointe, voilà, c'est ça, Radio La Pointe. Donc c'était une radio, voilà, une radio, radio de lutte vraiment, quoi. Voilà. Effectivement, la population qui était en lutte s'appropriait l'outil radio à l'époque.
C'est un peu cet esprit là aujourd'hui. Du coup, autour de cette table, il y a tous les passionnés, donc les gens de FPP, comme vous, il y a des gens de Radio Grenouille, de Radio Zinzine, il y a même quelqu'un de Radio Uze qui est venu depuis le fin fond de la forêt des Landes, de la compagnie Lubin, et beaucoup de gens du service, enfin de la radio publique, qui sont là hors des heures de travail, je tiens à le signaler, et qui sont là quand même pour participer à cette aventure de...
Ouais, ça c'est au cœur, là effectivement cet esprit on le retrouve là. C'est au cœur d'une mobilisation, on va dire d'un rassemblement. Nuit debout, je ne sais pas comment on peut le qualifier, c'est nuit debout, point, voilà. C'est tout. Voilà. On verra des sociologues peut-être dans quelques temps faire un bouquin là-dessus et lui mettre une étiquette, mais voilà, c'est nuit debout, quoi. C'est ni les indignés, c'est ni Podemos, c'est ni Syriza, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose, même s'il y a des inspirations qui viennent des autres mouvements, quoi.
Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout.
On a un petit reportage d'une discussion justement avec les policiers.
Ouais, justement, moi j'arrive, je prends le son, il y a un échange verbal entre donc les manifestants et les CRS qui au départ est assez speed et puis ça évolue.
Radio Debout.
Ok, on en avance. Commission Cantine a quelque chose à dire. Alors, je donne aucun mot d'ordre, mais ce qui se passe là-bas, en fait, il y a juste les flics, la marmite qui a été passée, donc qui était ramenée par la commission, a été renversée en partie. Les flics bloquent, il n'y a aucune violence, et c'est exactement comme ce qui s'est passé tout à l'heure là, comme ce qui s'est passé à la Sono. Donc s'il y en a qui veulent y aller pour installer un rapport de force, soutenir les camarades de la cantine et filmer, vous pouvez y aller.
C'est une marmite de bouffe, ça.
Elle est à nous. Et la marmite, elle est à qui? Elle est à nous. Et la marmite, elle est à qui?
Allez les enfants, elle est à
nous. Pardon? Par contre, mon gamin,
tu restes le boli, ton petit pas connard.
Je suis pas un connard.
Je fais avancer les véhicules, je suis pas un connard.
C'est pas vous, monsieur, c'est moi.
Vous êtes la seule barrière entre nous et la révolution. C'est vous la seule barrière.
De gamins, c'est la première chose qu'on apprend à des gamins, c'est de pas jeter la bouffe, tu sais.
Pardon, par contre, je suis pas un connard. D'accord.
Et bien alors, venez avec nous, montrez que vous êtes des bonhommes,
voilà,
monsieur.
Venez,
et quittez votre uniforme, parce qu'avec vos casques et tout, vous faites plus peur qu'autre chose. En plus, c'est un beau casque, vous avez l'air sympa en plus, les gars.
La sécurité intérieure dans la pays,
c'est... Mais quelle sécurité? Mais arrêtez, on s'entend tous bien.
On est là pour leur résumer les institutions régaliennes pour faire manger le peuple.
Tout à fait, mais moi je suis que pour le peuple mange.
Mais alors pourquoi vous jetez la bouffe alors?
Pourquoi vous dites ça à moi?
Partez et vous allez voir, ça se passe très très bien. Les seules personnes sur qui on veut taper, c'est vous, malheureusement. Et est-ce que vous appellerez vos enfants à manifester aujourd'hui? C'est une bonne question. Pour
j'ai trois enfants déjà. Ils sont
et alors
j'en ai deux qui sont majeurs et ils sont trois. Ils sont pas là parce qu'ils sont...
Ouais, vous avez envie qu'ils vivent dans ce monde de merde dans lequel vous défendez, lequel vous êtes en train de le défendre aujourd'hui, monsieur. C'est quand même fou, ça.
Je ne défends rien, moi.
Mais si,
je
vous êtes en train de faire quoi? Mais vous appliquez quelque chose auquel vous ne croyez pas. Moi, si on me demande de faire quelque chose contre ma morale, je le fais pas, je me tais, je reste chez moi. Rentrez chez vous, monsieur. Vous êtes la seule barrière entre nous et la révolution qui est en train de se passer. Vous êtes les seuls.
Allez voir le commissaire, il est sur place.
Mais faites gaffe, c'est dans vos rangs, monsieur.
Il y a le commissaire sur place, là. Il est où, le commissaire?
Le commissaire. Le commissaire. Le commissaire. Le commissaire.
Alors, il faut qu'on discute. Si vous voulez pas répondre à nos questions,
regardez ça.
C'est quoi la police nationale là?
Non mais regardez là, il y a des grades, il y a des grades.
D'accord.
Il suffit de regarder le grade d'un commissaire.
Ah, c'est ça le petit badge que vous avez là?
C'est grave ou c'est quoi, monsieur?
Bah moi c'est rien du tout.
Et donc ça c'est mieux.
Moi, je suis encore moins. Je suis un ouvrier, d'accord.
Égal plus que moi.
Mais voilà, nous c'est tous. C'est ce qu'on dit, les ouvriers c'est avec nous. Les commissaires et les patrons, c'est pas eux qui servent à quelque chose. On est avec vous.
Mais voilà, alors vous êtes.
On n'est pas là.
Il a dit, voilà.
Alors maintenant, la prochaine étape, on enlève les uniformes et on en prend.
Ah, ça caille, oh.
Voilà.
Un autre vêtement sur vos uniformes.
Il est pas de merde.
Pardon?
Vos gamins vont se faire frapper par des CRS, des futurs CRS qui aujourd'hui ont 10
enfants.
Ans peut-être.
Pas mes enfants.
Ah, mais on dit toujours on pas mes enfants, pas, hein, pas, franchement. Pas.
Vous allez apprendre au début, j'ai pas entendu. Au moins je vais apprendre en même temps.
Il y a 1822, 1838.
1822, d'accord.
1838.
Après Napoléon Ier, alors.
Oui, oui. Ouais. C'est ce qu'on appelait les jacqueries paysannes au début du 19e siècle, etc. Ensuite, il y a 1848 qui donne la Seconde République.
depuis 1871 la commune de Paris.
Le vote blanc a été supprimé à ce moment-là.
En quelle année?
Là, c'est vers la deuxième
1848
République, vers la deuxième ouais. République.
Ah bon, et Napoléon III, c'est lui qui a ordonné la suppression.
Non, c'est surtout l'abolition de l'esclavage, la Seconde République.
Et avec le vote blanc, alors.
Et suppression du vote blanc.
Je crois que c'est plus tard.
Ensuite, il y a quand même 1936.
Mais où est-ce qu'il a appris tout ça? Mais pourquoi moi, j'ai pas appris ça à l'école?
Archives, monsieur,
j'ai arrêté l'école très jeune aussi.
C'est
pour ça que j'y suis pour rien, moi. J'ai pas fait d'études, excusez-moi, mais bon.
Le but de mon propos, c'était de dire que la plupart de ces révolutions-là ont marché à partir du moment où les forces de répression, le monopole de la violence légitime, comme on dit en termes bourdieusiens, arrêtent de réprimer et décident de, par exemple, en Tunisie, le mouvement, il a marché parce que l'armée a arrêté de tirer sur la foule. On a dit, on vous laisse passer, allez-y, prenez le pouvoir, on prend le pouvoir avec vous. Et c'est ce qui s'est passé dans toutes les révolutions. C'est ce qu'on espère avoir un jour comme comportement de votre
Non, j'ai cru que ça venait d'Espagne. Pour Podemos.
Si vous rejoignez le mouvement, là, vous assurerez notre sécurité, pardon.
Je ne veux pas rejoindre le mouvement. Et qui c'est qui va prendre ma place?
De quoi? Mais personne n'est censé, pour l'instant de prendre votre place. Pour l'instant, c'est un coup de gueule que passe tout le monde et vous devrez faire partie de ça.
Ouais, ça fait plaisir de voir.
Vous pouvez faire autre chose. Moi, Serge, je suis dans la restauration, par exemple. Moi, j'aurais pu faire policier ou CRS, mais non, parce que...
C'est pareil.
De quoi?
C'est pareil.
Vous êtes policier?
C'est marqué dessus, monsieur.
Mais oui, mais là, aujourd'hui, comment vous pouvez dire... Comment vous défendez ce que... Qu'est-ce que vous défendez là, alors aujourd'hui?
C'est ça la question. Au départ.
Mais il n'y a pas vraiment de débordement aujourd'hui. C'est ça le problème. Vous avez empêché la sono de passer, vous avez jeté de la bouffe. Les débordements, c'est vous qui les créez, en fait. Aujourd'hui, clairement, c'est vous qui avez créé les débordements. Pas à chaque fois, mais aujourd'hui. C'est vrai, aujourd'hui, pour le coup. Aujourd'hui,
c'est limite.
Aujourd'hui, mais pas à chaque fois, peut-être. Mais aujourd'hui, pour le coup, c'est vous le problème. Et hier, c'était vous le problème. Et avant-hier, c'était vous le problème. Ça fait 10 jours que le problème, c'est les CRS et non pas les manifestants. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Si, monsieur. Bien sûr que
c'est les CRS qui frappent.
On s'aime tous ici. Nous ici, on s'aime tous. On s'aime tous. On s'aime tous. Vous n'avez pas de problème avec ce que vous représentez aujourd'hui? Vous n'avez aucun problème avec ce que vous représentez là, à l'instant T?
Non, à l'instant T, non. Ah non,
voilà. Du coup, vous êtes complètement paradoxal avec ce que vous venez de dire.
Chacun dans chaque métier a des moments de doute, des moments de confusion.
Là, c'est quand même un peu plus prégnant que dans d'autres corps de métier.
J'ai un regard critique et je le garde pour moi.
Oui, mais vous travaillez activement pour la préservation du système, c'est ça qui est problématique. Ce qui n'est pas mon cas en tant qu'enseignant-chercheur. Mais si, bien sûr, monsieur,
ce que vous
c'est
êtes
votre
en train
fonction.
De faire,
c'est ça. C'est...
Je suis pas d'accord avec vous.
Vous êtes du pur produit
capitaliste, monsieur.
Ah bon? Oui. Vous avez un iPhone, vous, dans votre poche, Vous avez un iPhone dans votre poche et vous mangez au McDo.
J'ai un Samsung. Ben oui, non, mais attendez.
Oh, bah alors, arrêtez votre cinéma.
Oui, mais je ne le défends pas comme
vous.
C'est pas un plaisir que de vous insulter. Nous, on aimerait être avec vous. On aimerait que vous soyez avec nous. C'est ça le truc. Vous êtes la seule barrière entre nous et ce qui pourrait se passer après.
Et si vous venez
avec nous, c'est vous la seule barrière. Parce que c'est pas l'État, c'est pas.
Le monde il s'arrange.
Bien sûr que oui.
Peut-être qu'on n'est pas prêt aujourd'hui. Aujourd'hui on n'est pas prêt, mais là on se prépare. Et bientôt vous aurez un choix à faire. Le temps viendra.
Écoutez, parlez, comprendre. Radio Debout.
Debout.
J'espère qu'on va pas être interrompu comme ça toutes les 5 minutes, parce que c'est pénible, les gars.
Écoutez, parlez, comprendre. Radiodebout.org,
c'est à vous, Antoine.
Alors, tout à l'heure, on a fait une rencontre assez improbable, et on a été contacté, en fait, par une gardienne de la paix, qui a donné, un entretien de 8 minutes qu'on va vous diffuser maintenant.
Écoutez.
Bon, mais je m'appelle Léna, je suis gardienne de la paix. Je peux pas donner mon prénom, évidemment.
Et je sors un peu de mon devoir de réserve parce que je trouve que la situation le vaut. J'aimerais aborder deux points, celui des difficultés qu'on rencontre dans la police, puisqu'on est dans un cadre de convergence des luttes, mais aussi le point qui concerne les violences policières de ces derniers jours, et même en amont un petit peu. D'abord, ce que je vais commencer par dire, c'est que dans mon métier, on vit aussi des choses difficiles, comme tous les travailleurs qu'on connaît, et que... En fin de compte, les échelons politiques, c'est l'impression qu'on a en tout cas, prennent des décisions qui ne sont pas forcément en adéquation avec la réalité. Et c'est répercuté sur les échelons de commandement des polices et de gendarmerie, des forces de l'ordre en général. Ça redescend ensuite et ça impacte négativement forcément les policiers sur le terrain, qui souffrent de plusieurs choses, non seulement du manque de moyens, évident, mais ça, c'est pas le plus grave. C'est plutôt la pression inhumaine qu'on subit dans les commissariats notamment, et puis je pense aussi aux collègues qui sont dans les CRA et qui doivent s'occuper des exilés, etc. C'est vraiment...
Les centres de rétention. Hein.
C'est ça, les centres de rétention administratifs où sont, entre guillemets, parqués les gens quand ils arrivent de l'étranger et qu'ils n'ont pas encore fait leur demande d'asile et qu'ils ne sont pas en situation administrative régulière pour pouvoir séjourner en France. Donc en fait, tous ces collègues-là sont soumis à une pression du chiffre, puisqu'on est rentré depuis quelques années dans une logique comptable où on leur demande non pas de remplir des quotas, comme croient certains, mais de faire de plus en plus d'activités. Il faut faire du chiffre, donc de plus en plus de timbrements, de plus en plus d'interpellations, de plus en plus d'activités sur la voie publique, avec très peu de moyens et très peu d'effectifs. Donc je connais notamment une circonscription de police où il y a 14 communes et où il y a une voiture avec deux personnes qui tournent. Et où quand forcément d'un côté les collègues sont, il y a des cambriolages de l'autre côté, et on nous engueule parce qu'on n'a pas pu les empêcher. Donc ça c'est assez aberrant quoi. Et ça subit depuis un peu plus de 10 ans maintenant, entraîner une démoralisation complète et une tension complète. À la base de la police nationale, mais aussi dans les échelons d'officiers, et fait que les gens ne sont plus soudés, ne sont plus du tout fiers de leur métier. Il y en a de plus en plus qui démissionnent, on a un taux de suicide abominable, et on laisse notamment là, aujourd'hui j'ai appris le suicide d'une de mes collègues qui laisse deux enfants, elle s'est suicidée en plein milieu de son commissariat, devant ses collègues, avec son arme de service. Donc c'est juste insupportable. Quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que dans la police, on est travailleurs comme les autres. On est censé, et on est rentré là pour servir nos concitoyens, pour leur permettre de vivre en paix. Et puis la deuxième phase que je voulais aborder, c'était donc le problème des violences policières. Je pense qu'il y a plusieurs solutions, ou au moins... Petites astuces peut-être pour désamorcer des conflits et des situations de tendues. Déjà, n'insultez pas les gardiens de la paix qui sont derrière les boucliers, ça ne sert à rien. C'est pire que tout. Ces gars-là, ils sont plantés là depuis des heures, debout, avec un équipement extrêmement lourd. S'ils sont insultés en plus, forcément, au bout d'un moment, c'est des humains. La cocotte minute, elle déborde. Et puis, ils font parfois des choses qu'ils regrettent ensuite. Essayez de leur parler comme vous parleriez à des proches. Et dans les situations d'agression, ça peut désamorcer le conflit.
Et vous pensez qu'il y a beaucoup de gardiens de la paix ou de forces de l'ordre qui viennent après leur service ici sur la place de la République pour la nuit debout?
Alors ça, je ne saurais pas vous dire, mais en général, ils ne viennent pas en uniforme.
Ah ben non.
C'est certain. Mais en tout cas, je sais qu'il y en a qui vous suivent. Qui écoutent, qui se disent que c'est possible de changer les choses aussi, que c'est possible de discuter, de renouer un lien avec la population qui nous manque terriblement. Et quand la population, comme je l'ai dit tout à l'heure, est coupée de sa police, la police qui lui appartient et qui est censée la protéger, c'est vraiment terrible parce que là, on peut justement assister à des débordements. Et je pense qu'il faut renouer ce lien au plus vite et au plus près, et se rendre compte que dans la police, c'est des gens comme les autres également, voilà.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Alors un point d'actualité brûlant, il semblerait que la préfecture de police, décidément, entre la lumière, la bouffe, maintenant ils veulent couper le générateur. On veut plus qu'on parle, je crois.
Hashtag comme un bruit.
Ça y est, la place, la nuit debout a repris vie après toutes les péripéties de la fin d'après-midi, du début de soirée. Ça y est, tout le monde est là. Il y a à nouveau des milliers de personnes qui sont là, qui discutent, qui se rencontrent, qui débattent. Toutes les commissions qui ont repris place. Les éditions Libertalia qui sont là, qui ont installé leur table de bouquins. Alors malgré l'adversité, il y a tous les petits espaces qui ont réussi à se réinstaller. Vous, vous avez réinstallé la librairie ici, hein, l'espace littérature.
L'espace de lutte. Voilà, littérature de lutte exactement, parce qu'effectivement ce soir tout était bloqué, interdit. Et on s'est dit on va passer à un moment à force de patience et de ruse. On est passé. Et ben c'est bien parce qu'en fait, cet endroit, nous on est là tous les soirs depuis 10 jours avec Libertalia. Et c'est vrai que c'est un endroit où les gens viennent discuter. Ils viennent, bon, bien sûr, acheter des livres, mais ils viennent aussi discuter, un peu nourrir leurs réflexions. Et c'est ça qui est bien, ce qui se passe ici. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. C'est que les gens, au lieu d'être juste sur la défensive, ils veulent des perspectives. Ils sont en train de dire nous. Et ils sont en train de dire, oui, comment on construit aujourd'hui et demain. Pas dire, oui, juste on préserve des acquis, ce qui est légitime et défendable. Hein. Mais là, les gens, ils veulent autre chose. Et donc, ils veulent nourrir leurs réflexions aussi avec les assemblées générales, les discussions, mais aussi des idées. Et des idées, il y en a dans les livres, ça tombe bien. Quoi.
Alors, qu'est-ce qu'ils prennent, les gens, comme bouquin, là?
Par exemple, la collection sur l'éducation. C'est, voilà, par exemple. Non, mais c'est vrai, c'est, les gens ont soif de savoir comment transmettre. Et voilà, tout ce qui est lié à la lutte. La commune aussi, ça intéresse beaucoup les gens. La commune de Paris, etc. Vraiment, ils sont passionnés par ça. Ils posent beaucoup de questions. Là, on a la chance souvent d'avoir les auteurs ici qui sont là, qui répondent. Et les gens disent, ouais, mais comment ils se sont organisés à l'époque? Pourquoi ça... Qu'est-ce qui a marché? Pourquoi ça n'a pas marché d'ailleurs? À la fin, des bouquins de lutte et des bouquins qui donnent des perspectives aussi, qui apprennent à s'organiser, puisque comme le disait l'autre, ne vous lamentez pas, organisez-vous, comme le disait de Joe Hill. Il y a beaucoup de temps d'ailleurs qui est passé dans les AG à dire comment est-ce qu'on s'organise. Parce qu'avoir des bonnes idées, des bonnes intentions, c'est un bon début, mais si ce n'est pas structuré par une organisation, ça tourne vite court et c'est une des problématiques importantes qu'il y a ici. Les gens ont commencé à faire un bon conseil, une bonne analyse, de comprendre que le néolibéralisme, c'était... Enfin, vraiment sans issue, si encore ils avaient quelques illusions. Ils disent, bon, maintenant, comment on fait pour non seulement s'en sortir et trouver un autre mode d'organisation, et comment on prend des décisions, comment on les applique, etc. Et bien sûr, ça part un peu dans tous les sens, mais faut bien partir de quelque part, et puis c'est bien la façon dont ça se passe, quoi.
Bon, ben, on se retrouve demain, alors.
Demain et après-demain, et encore pendant de nombreux jours, quoi.
Écoutez, parler, comprendre. Radio Debout.
Aujourd'hui, on a commencé sous la pluie, la tente a fui. Il pleut plus, en tout cas, maintenant. Et demain, rendez-vous à demain à 19h.
Ok, okay.
Ça y est, on va écouter pour finir une chanson que nous a enregistrée Antoine. Et c'est la compagnie Théâtre Jolie Môme qui chantait.
Mais c'était hier à Saint-Denis.
Eh hey, les gars, vous faites quoi?
Radio Debout.
Nous qui sommes sans passé. Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, dedans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, levons-nous, femmes.
Et bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, je voulais faire un petit point histoire, rapidement, parce que moi, je suis étudiant en histoire, je sais pas grand-chose, mais j'aimerais juste clarifier quelque chose, parce que on en parle souvent ici, et j'ai entendu ici beaucoup de cris historiques, parce qu'il y a beaucoup, on a l'impression de faire de l'histoire ici, donc c'est intéressant. J'entends beaucoup de gens qui disent, qui appellent à la commune, par exemple, que je comprends, moi, je suis très sympathisant de ce mouvement aussi, donc la commune, ok, mais c'est aussi un moment d'opposition. Quand on fait la commune, on affronte les Versaillais. Donc la commune, ça met deux France face à face, et moi je serais peut-être plus intéressé par un autre moment de l'histoire de France, c'est février 48, c'est la révolution qui apporte le premier suffrage universel, c'est la révolution qui enfin met définitivement fin à l'esclavage, et c'est un moment où le prêtre, l'instituteur, le riche, le pauvre, tout le monde s'unit ensemble dans un espoir formidable. Et donc février 48, c'est vraiment des journées moi qui m'intéressent beaucoup plus que la commune, parce que je pense qu'elle représente plus ce mouvement, parce qu'on est putain d'unis ici quoi. On est en train d'écrire l'histoire tous les soirs ce soir, et c'est putain génial. Merci à tous.
Là, j'ai la demandé parler d'histoire, et c'est ce que nous allons faire avec l'anthropologue états-unien David Graeber, car lui qui a publié 5000 ans d'histoire de la dette fait le lien aussi avec la révolution de 48. Mais Graeber, militant et chercheur, voit cette analogie au niveau global. Avec son expérience d'activiste, au premier rang du mouvement Occupy Wall Street en 2011, il replace les Nuits Debout dans un mouvement de fond qui traverse nos sociétés planétaires courant derrière les marchés. Seattle, Syntagma, Taxi, Madrid, Wall Street, place de la République, et si quelque chose se jouait sur le temps long.
David Graeber, bonjour.
Hello.
Je vous retrouve place de la République, encore dans l'après-midi, parce que vous êtes venu depuis Londres, depuis le 39 mars.
More or less, yes.
Pour voir ce qui s'y passe. Okay. Parce que vous êtes là aussi avec deux casquettes. Parce que je rappelle, vous êtes anthropologue, donc observateur, chercheur, et puis aussi un activiste de Occupy Wall Street. Mais vous avez suivi les mobilisations depuis 2001, dans la suite de Seattle, tout ce mouvement altermondialiste avec ses différentes étapes, Gênes, et puis maintenant peut-être Paris, c'est ça? Vous voyez une continuité entre toutes ces mobilisations?
Absolutely. When we were involved in creating the summit mobilizations against the IMF.
À l'époque où on faisait ces mobilisations contre les grands sommets du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC, je ne sais pas si on imaginait que ça se deviendrait comme ça, mais c'était ça qu'on voulait. On avait cette idée de la démocratie directe, de laisser les mobilisations et les formes de résistance incarner, représenter le monde que vous voulez créer. Il y a eu beaucoup de travail de tous ces mouvements à travers le monde à créer ces nouvelles formes de démocratie. Et c'est alors qu'en 2011, ces mouvements se sont propagés à travers tout le monde. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. C'est ce qu'on a vu sur la place Tahrir en Égypte, en Tunisie, qui s'est après étendue jusqu'à la place Syntagma en Grèce. Après, il y a eu les indignés en Espagne. Et quand c'est arrivé jusqu'à Occupy Wall Street, à New York, c'est-à-dire vraiment à l'épicentre du capitalisme financier, ça s'est ensuite répandu dans le monde entier. On entendait parler de Occupy Nigeria, Occupy Karachi. Tout le monde reprenait ce mot d'ordre. Il ne faut pas oublier que Zuccotti Park, Occupy Wall Street, c'était une occupation. On n'avait pas demandé de permis. C'était vraiment une question de rapport de force et de gens qui s'exprimaient en leur nom. C'était vraiment un exemple d'action directe. Et je crois que c'est ce principe même de créer un espace en dehors des structures politiques existantes qui est vraiment maintenant devenu la grammaire de mouvements sociaux de démocratie par le bas. Le pouvoir de ce genre de mouvement, c'est de délégitimer le système. Et il y a un vrai renouveau d'idées de ce que pourrait être un futur qui serait fondamentalement différent.
Fight for what's right!
This is our time!
This is our time!
Occupy!
Occupy!
All day!
All day!
All week!
All week!
Never surrender!
Never surrender!
Et là, on se met à l'abri parce qu'il y a un gros orage de printemps. Just go there. Okay. Merci beaucoup. On nous fait de la place.
Okay.
Qu'est-ce que vous voyez de particulier dans ce Occupy à la française qui est devenu la Nuit Debout?
I think that it grew much faster than most movements.
La Nuit debout a grandi beaucoup plus vite qu'Occupy Wall Street. Ça a semblé venir de nulle part et ça a éclos très très vite. Mais du coup, beaucoup de choses ne sont pas terminées. C'est seulement maintenant qu'ils commencent à répondre à des questions essentielles d'organisation. Mais bien sûr, à chaque fois, c'est fait d'une manière différente. Mais c'est les principes qui sont les plus importants. C'est que ces forums soient improvisés et puissent changer de sujet. Parce qu'une des choses qui est le plus remarquable ici, c'est quand on voit le panneau avec les signes et la signification des signes avec les mains. Mais cette tradition-là, elle remonte aux gens qui vivaient dans la forêt du Chiapas. Il y a eu un incroyable développement de créativité démocratique ces 15 dernières années, et c'est vraiment planétaire. Et c'est vraiment à chaque fois une combinaison des meilleures idées venues de chaque coin de la planète.
Direction l'Espagne aujourd'hui pour aller à la rencontre de ceux qu'on appelle les indignés.
Après l'Espagne, le mouvement des indignés gagne la Grèce.
On est direction l'Égypte où des dizaines de milliers de personnes sont actuellement réunies sur la place Tahrir.
We demand for economic justice. We demand the impossible.
Tout a donc commencé à Wall Street, mais depuis, du Pacifique à l'Atlantique, du Canada au Mexique, ils occupent des parcs et des espaces publics, au cri de « Nous sommes 99% ».
Les manifestants étaient encore assemblés ce dimanche soir sur la place Taksim à Istanbul. Du Japon aux États-Unis, en passant par l'Europe et l'Amérique du Sud.
Ils campaient dans les Square Zuccotti à New York depuis le 17 septembre. Dans la nuit de lundi à mardi, les indignés du mouvement Occupy Wall Street ont été évacués par la police.
We object to the privatization of education. Yeah! We demand the impossible. We the people.
We the people.
David Graeber, beaucoup des critiques disent, mais regardez, Occupy, ça n'a rien donné. Beaucoup des critiques disent, mais regardez, Podemos est devenu maintenant un parti politique comme un autre. Regardez Tsipras et le parti Syriza qui a baissé devant la Troïka.
Well, the very existence of these people shows something.
Ben, le simple fait qu'ils existent déjà est significatif.
Look at all the countries where occupations were strongest.
Parce que dans tous les pays où les mouvements Occupy étaient les plus forts, ce qu'on a vu, c'est que le discours politique s'est adapté en reprenant le même langage et en reprenant les mêmes revendications. Ça a pris quelques années, bien sûr, mais ces choses se font lentement. Maintenant, aux États-Unis, même la droite parle des inégalités. Et quand on entend ça, on comprend qu'on a gagné.
We the people!
Et ça, vous retrouvez là-dedans l'espoir qui était né à Zuccotti Park au moment du Occupy?
Yes, it's wonderful to see. And of course,
oui, c'est magnifique à voir ça. Et bien sûr, on se dit bien que peut-être que dans 6 mois, peut-être beaucoup de ces gens se détesteront. Mais il y en aura quand même beaucoup qui seront tombés amoureuses aussi. Il y a tellement de choses qui peuvent encore avoir lieu. Mais ce qui compte vraiment, c'est comment la société dans son ensemble réagit à ce phénomène. Et si le mouvement peut trouver des alliés politiques qui ne viennent pas compromettre l'originalité du mouvement.
Il y a un des points maintenant qui préoccupe beaucoup des acteurs et des observateurs de ce mouvement Nuit Debout, c'est son manque d'hétérogénéité, comme on dit. Toutes les classes sociales ne sont pas encore représentées et ça peut être un frein, ou en tout cas un épuisement.
Il y a un danger de l'entre-soi et c'est pour ça que le mouvement Banlieue Debout est très important. Ça ne fait que commencer, mais c'est important que ça soit quelque chose d'autonome.
On ne
peut pas envoyer des missionnaires pour leur dire comment faire. Et c'est très très important de garder cette autonomie et cette liberté. On veut créer un espace politique, mais où les gens puissent dire exactement ce qu'ils pensent. Et ça, c'est très difficile, parce que ce n'est pas le genre de discours pour lequel on trouve des sponsors.
We the people!
Alors là, il y a un atelier banderole, retrait de la loi travail, nuit debout, sur des tissus, alors avec des pochoirs pour faire toutes les lettres.
Non, le C c'est bon.
Le C c'est bon, donc je le range, ouais. C'est l'atelier banderole, c'est ça?
Voilà. Ouais, on a notre petite commission depuis quelques jours.
Ah ouais, la commission banderole.
C'est pour quelle radio?
C'est pour une émission qui s'appelle Comme un bruit qui court.
C'est sur France Inter. Ah, c'est l'émission du samedi après-midi, c'est ça?
Ouais.
Où vous faites à chaque fois des témoignages.
Samedi 16h, ouais.
Ça marche, ouais. On fait notre petite banderole, on a fait que des petits trucs comme
et
ça.
Voilà le A.
Car nos vies valent plus que leurs profits. Hein.
D'accord.
Une toute petite banderole, mais ouais. Il y a du boulot au niveau de la construction de ce mouvement et et du processus démocratique en France que voilà.
David Graeber, pendant qu'on est encore, pendant quelques minutes encore, place de la République, parce que vous devez retourner pour vos activités, bah on peut commencer à marcher si vous voulez. On passe devant les jongleurs, on passe devant ce lieu qui était aussi un symbole traumatique de la France, de l'après-attentat, l'après-Charlie, l'après-Cache-Cachère, et puis après, l'après 13 novembre.
C'est très intéressant parce que quand on voit ce monument avec les bougies, ça rappelle New York après le 11 septembre. Parce que la réaction immédiate de tous ceux qui ont été victimes ou proches de victimes, tous ceux qui ont été traumatisés par cet attentat, c'était pas de demander la guerre, c'était exactement l'opposé. Ils ont mis des bougies, ils sont venus réciter des poèmes. C'est comme si les New-Yorkais étaient pour un jour devenus tous des hippies. Et un jour, après deux semaines, quand on est revenu, tout avait été enlevé. Mais ici, je pense qu'il y a une connexion comme ça, qui est ce mémorial des attentats, et que juste à côté, ce sont les mêmes gens, ceux qui ont vécu cette catastrophe. Ça veut dire quelque chose. Et ça rend d'autant plus difficile de les chasser par la police. Instead of occupying Wall Street and occupying Boston and occupying Oakland, and how about you occupy a job? Et alors, et ce que vous voyez, c'est que dans ce continuum entre les mobilisations et cette accélération qu'il y a eu en 2011, c'est que ces mobilisations ne peuvent avoir d'issue que globalisées aussi.
Ultimately, I think so.
Fondamentalement, oui. Parce que ce qu'on a vu, en fait, c'est la création d'une structure administrative planétaire et qui agit dans l'intérêt de ces 1% les plus riches. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire humaine. Mais c'est fait de beaucoup d'institutions. Certaines sont publiques, certaines sont privées, d'autres sont dans l'entre-deux. Par exemple, c'est quoi le FMI? Personne n'est vraiment sûr de ce que c'est en termes de démocratie. Et cette bureaucratie, c'est celle qui est née des institutions de Bretton Woods, les traités de commerce, les banques comme Goldman Sachs, toutes ces grandes banques d'investissement, et même les agences de notation, elles ont un pouvoir global. Et donc maintenant, on a un système administratif global, mais on n'a pas de champ politique global. Si on regarde l'histoire des changements sociaux, ça s'est très rarement passé par une réforme venue de l'intérieur. Et quand il y a eu une réforme venue de l'intérieur du système, c'est parce qu'il y avait toujours quelqu'un en dehors qui faisait pression. Les changements historiques arrivent lentement. Parfois, ça prend du temps avant qu'on s'aperçoive qu'on est dans une nouvelle période. Il faut qu'on arrive à abandonner ces réflexes consuméristes qu'on n'a qu'à cliquer sur un bouton pour que ça apparaisse. Les mouvements sociaux ne fonctionnent pas comme ça. Et plus les changements que vous voulez sont importants, le plus de temps ça prendra.
Les slogans, c'est pas la nuit debout, c'est les niais debout. Moi, j'y suis allé, alors j'ai vu alors toute une sociologie, comment pourrais-je dire, un agrégat de paumés. Il y a des punks à chiens, il y a des étudiants, c'est tout.
Non, mais ce que
il y a aussi
dire,
des gens bien, certainement,
non, mais
Eric.
Il y a des gens formidables, je sais pas ce que je suis en train de vous dire.
Ici, on a gardé un endroit de communication. Aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui sont là pour parler ensemble.
Des revendications d'une poignée de personnes qui font le siège de la place de la République et qui nous décrivent avec des yeux émerveillés un monde nouveau qui commence. C'est tellement pathétique de voir cela.
Bonsoir, vous m'entendez?
Il faut faire respecter la loi. La place doit être évacuée, la place de la République, quand on est en état d'urgence.
Je suis profondément choqué que d'un côté on ait l'état d'urgence et de l'autre côté qu'on tolère ce type de rassemblement et de manifestation.
Je vais vous mettre cette décision au vote. Qui est pour?
Ensuite qu'on écoute les uns et les autres leurs propositions, très bien. Je souhaite qu'il n'y ait pas non plus de dictature de la minorité dans notre pays.
J'ai vraiment besoin de savoir si les gens sont avec nous pour défendre cet endroit. Voilà. Merci.
Prends ma brique et cours.
David Graeber, une des autres remarques justement à ce sujet que vous avez faite dans cette conférence à la Bourse du Travail avec Frédéric Lordon, c'était de rappeler à quel point la classe dirigeante globalisée, ce que vous appelez la bureaucratie ou ses rouages, est celle qui se vit le plus comme classe. qu'il y a une solidarité entre les puissants, entre les 1%.
Exactly. I call it the communism of the rich.
Oui, c'est ça. On appelle ça le communisme des riches. Parce que quand c'est leurs intérêts qui sont remis en cause, ils s'entraideront toujours pour pouvoir s'en sortir. Parce qu'ils savent qu'ils sont tous dans le même bateau. Et c'est ça qu'on voit aussi avec les Panama Papers. Ces riches et puissants, ils utilisent leur argent pour faire du pouvoir et ils utilisent leur pouvoir pour faire de l'argent. Et c'est eux dont il s'agit quand on parlait des 1%. Et ces gens-là, ils choisissent toujours de ne pas payer leurs impôts, même si pour eux, ça ne change pas grand-chose. C'est presque un geste symbolique. C'est vraiment l'équivalent financier du pouvoir royal, du pouvoir monarchique. Puisque c'est nous qui faisons les lois financières, bien sûr qu'elles ne s'appliquent pas à nous. Oui, c'est terrible. Bon, ça ressemble vraiment beaucoup à la chute de l'Empire romain. C'est-à-dire qu'on a une version très simpliste des changements historiques. C'est tout à fait possible qu'on soit en train de vivre une de ces époques de changement aujourd'hui, mais qu'on ne sait pas encore comment le décrypter. Mais on peut être certain que le système dans lequel on vivra dans 50 ans ne sera plus le capitalisme. Mais mon souci, ce n'est pas tellement de savoir si le capitalisme sera encore là ou pas, mais c'est que le système qui vient après ne soit pas pire. C'est quand même une possibilité. Et donc, ce serait absolument idiot de ne pas essayer dès aujourd'hui à réfléchir à un meilleur système. Parce que si on n'a pas quelque chose de mieux, ça risque d'être pire.
Il
ne faut pas avoir peur de ça. Parce que ça dépend vraiment de nous. Parce qu'il y a eu vraiment ce changement dans la mentalité des gens après la crise financière de 2008. Parce que pendant des décennies, on nous avait répété que les gens qui s'occupaient de l'économie, ils sont très malins, ils sont très compétents, ils savent ce qu'ils font. Donc faites-nous confiance, faites-leur confiance, laissez-leur faire leur boulot et retournez travailler. Et voilà que ces gens en sont arrivés à détruire toute l'économie mondiale. Et donc le système est maintenant en train doucement de couler et il n'y a plus grand monde pour venir défendre le système. Parce que la plupart des arguments avancés pour justifier le système capitaliste ne fonctionnent tout simplement plus. Par exemple, quand on entendait que oui, effectivement, le système crée des inégalités, mais beaucoup des pauvres peuvent espérer que leurs enfants s'en sortiront mieux qu'eux. Ce qui n'est évidemment plus vrai aujourd'hui. Un autre argument, c'était de dire que ça crée une classe moyenne de plus en plus grande qui amènerait une stabilité politique, ce qui est loin d'être le cas. Notre argument pour le capitalisme, c'était de dire qu'il accélérait le progrès technique et les avancées scientifiques. Plus tellement. Alors qu'est-ce qui reste après ? En disant que il n'y a pas d'autre système, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc il n'y a qu'à montrer la possibilité d'un autre système pour que tout cet argumentaire s'écroule. Et ce monde est déjà là. Il n'y a qu'à faire grandir, il n'y a qu'à étendre ces zones de coopération et de liberté qui existent déjà.
Voilà la gare du Nord. Vous allez pouvoir retourner à Londres parce que vous, je rappelle, vous êtes professeur à la London School of Economics.
Yes.
Merci beaucoup, David Graeber. Okay. Vous allez revenir à Paris après ? Vous allez suivre ce mouvement ?
Of course. But I have every intention of coming back. Yes.
Merci encore.
All right.
Et le livre de David Graeber, Bureaucratie, est disponible aux éditions Les Liens qui Libèrent. C'était Comme un bruit qui court. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter. N'hésitez pas à nous laisser des messages et pensez à vous abonner au podcast et à faire courir le bruit sur les réseaux sociaux que le bruit court. Pensez aussi à consulter le programme sur le site de La Nuit Debout. Il s'y passe plein de choses, comme demain par exemple une journée sur le thème « Agir aujourd'hui pour le monde de demain ». Juste après les informations, ce sera l'Esprit Inter avec Mathias Degel et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.